Le journal présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. L'Union européenne menace directement la Pologne. Le droit de vote de la Pologne au Conseil européen pourrait être suspendu dans le viseur de Bruxelles. Une loi passée tout récemment qui réforme la justice selon l'UE. C'est l'indépendance judiciaire qui est menacée par ce texte. Nous ferons le point avec notre correspondante à Varsovie, Maja Szymanowska. Nous parlerons également des premiers résultats de l'enquête après l'attaque hier en Allemagne, à Hambourg. Dans un supermarché, une personne a été tuée et 6 autres blessés. Un réfugié a été interpellé. Il était connu comme islamiste et avait montré des signes de radicalisation. Journée sous haute tension demain au Venezuela. Le peuple est appelé à élire une assemblée constituante. L'opposition appelle à s'abstenir et à manifester dans les rues. Air France suspend à partir de demain ses vols vers et à partir de Caracas pour 3 jours. Nous entendrons un Français qui est actuellement bloqué au Venezuela. Et puis nous évoquerons également le bras de fer entre TF1 et SFR. La chaîne de télévision demande à l'opérateur télécom de ne plus distribuer ses chaînes gratuites sur ses box. David Ravier nous en dira plus. Bruxelles hausse sévèrement le ton face à Varsovie. La Commission européenne annonce aujourd'hui l'ouverture d'une procédure d'infraction contre la Pologne. Ce qui est en cause, c'est une loi votée par le gouvernement conservateur polonais qui réforme la justice. Pour la Commission européenne, c'est l'indépendance judiciaire que le texte remet en cause. Bruxelles menace même de suspendre le droit de vote de la Pologne au Conseil européen si jamais le pays persiste dans cette voie. Varsovie dispose désormais d'un délai d'un mois pour répondre. Bonjour Maja Szymanowska.
Bonjour.
Vous êtes donc notre correspondante en Pologne. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire quelle a été la réaction du pouvoir à Varsovie ?
Alors je cite, il y aura beaucoup d'émotions négatives et une mauvaise atmosphère dans les relations bilatérales entre la Pologne et l'UE. Voilà le commentaire du ministre des Affaires étrangères polonais, Witold Waszczykowski, à l'annonce des mesures prises par Bruxelles à l'encontre de Varsovie. Le porte-parole du gouvernement polonais trouve, lui, que cette mesure est tout simplement infondée. Le ton est donné. Les conservateurs au pouvoir soutiennent mordicus ici leur réforme de la justice, argumentant qu'elle est nécessaire pour lutter contre la corruption et une mafia datant de l'époque communiste. Droit et justice poursuit en effet sa chasse aux sorcières, soutenant que malgré la chute du communisme, voilà plus de 25 ans, les anciens apparatchiks tiennent toujours les rênes de la magistrature.
Alors est-ce qu'on peut rappeler ce que contient précisément cette loi ?
Alors cette réforme des tribunaux de droit commun donne plein pouvoir au ministre de la Justice dans le choix des présidents des tribunaux et dans la décision de prolonger ou pas ou révoquer les juges, ce qui signe la fin de la division du pouvoir exécutif et judiciaire selon l'opposition. D'après Bruxelles, cette loi contient des mesures discriminatoires avec des âges différents de départ à la retraite pour les hommes et les femmes. La Commission déplore surtout une mesure accordant au ministre de la Justice le pouvoir de prolonger le mandat des juges ayant atteint l'âge de la retraite. Alors les médias indépendants comme le quotidien Gazeta Wyborcza craignent une vendetta des conservateurs et des procès en diffamation qu'ils pourront désormais perdre, étant donné que c'est le pouvoir politique qui pourra choisir ses juges.
Et alors cette réforme de la justice commencée il y a un an par les conservateurs a beaucoup mobilisé l'opposition.
Oui, il y a eu un véritable réveil citoyen depuis quelques semaines, des manifestations dans toutes les grandes et moins grandes villes polonaises. Une partie de la population crie au scandale. Pour une fois, beaucoup de jeunes se sont mobilisés. Les magistrats, effarés par cette mise de la justice sous la tutelle des politiques, se sont beaucoup mobilisés aussi. Et cette opposition populaire a fait reculer le président Andrzej Duda, qui a opposé son veto aux 2 autres lois sur la réforme de la Cour suprême et la réforme du Conseil de la magistrature. Mais les conservateurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne laisseraient pas tomber la réforme de la justice, qu'ils n'allaient pas s'arrêter juste à la réforme des tribunaux de droit commun, et ils comptent revenir à la charge à la rentrée, sans se soucier de l'opposition au sein de leur pays et des remontrances de Bruxelles.
Voilà, on comprend donc qu'effectivement les menaces de la Commission européenne ne semblent pas avoir d'effet sur le gouvernement conservateur polonais. Merci beaucoup Maja Szymanowska. L'enquête progresse en Allemagne suite au drame qui s'est déroulé hier à Hambourg. Selon les derniers éléments donc de l'enquête, l'agresseur au couteau est un demandeur d'asile. Il était connu comme islamiste et avait montré des signes de radicalisation. Alors on rappelle qu'il a fait irruption dans un supermarché. Il s'est emparé d'un couteau de cuisine dans un rayon et a poignardé plusieurs personnes. Le dernier bilan est d'un mort et 6 blessés, dont certains grièvement. Cette attaque de Hambourg suscite également des réactions politiques. Pascal Thibault est notre correspondant sur place en Allemagne.
L'agresseur au couteau de Hambourg était connu comme islamiste. Il avait montré des signes de radicalisation ces dernières semaines, comme en ont témoigné certains de ses voisins dans le foyer pour réfugiés où il était abrité. L'homme de 26 ans figurait sur la liste des islamistes de Hambourg établie par la police, mais le danger d'un passage à l'acte immédiat était modeste pour les autorités. Son instabilité psychique ne permet pas par ailleurs de savoir aujourd'hui si des motifs religieux ou une impulsion subite ont in fine expliqué son geste. Certes, les agressions inopinées au couteau constituent un mode opératoire de Daesh, mais le fait que l'homme se soit saisi d'un couteau dans le rayon du magasin en y revenant une deuxième fois laisse plutôt penser à un acte spontané. L'enquête pour l'instant ne permet pas de conclure à son appartenance à un réseau. Pour autant, la radicalisation de ce Palestinien apatride dont la demande d'asile avait été rejetée rouvre le débat sur les réfugiés et la présence parmi eux d'éléments dangereux. Le parti populiste AfD a immédiatement dénoncé ces dangers hier, accusant Angela Merkel d'irresponsabilité après l'accueil massif de réfugiés en Allemagne. Le fait qu'à nouveau l'agresseur aurait dû être expulsé mais ne disposait pas encore des papiers de remplacement nécessaires rappelle la polémique autour du Tunisien Amri, auteur de l'attentat contre le marché de Noël de Berlin. À 2 mois des élections générales, de telles polémiques tombent mal pour la chancelière. Son ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a tenté de calmer le jeu en estimant qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives.
Pascal Thibault, que cherche précisément la Corée du Nord en multipliant les essais de missiles balistiques? La question se pose aujourd'hui au lendemain d'un nouveau tir. Hier soir, un missile a donc parcouru près de 1000 km en 47 minutes avant de finir sa course en mer du Japon. Pour Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, je cite « Tout le territoire américain est à notre portée de tir, n'importe où, n'importe quand. » Fin de citation. Ce tir a bien sûr été condamné par Washington, par Paris, par Séoul, l'Union européenne et aussi par Pékin. Alors que cherche donc véritablement à démontrer le régime de Pyongyang? Élément de réponse avec l'historienne spécialiste de la Corée du Nord, Juliette Morillo.
C'est une énième provocation et je n'emploierai même pas le terme provocation. La Corée du Nord, imperturbablement depuis des années, poursuit son programme nucléaire et son programme balistique avec un but qui était affiché depuis des années, avoir un moyen de riposte et un moyen de répondre aux États-Unis. Et là, ça rentre tout à fait dans la politique du jeune dirigeant Kim Jong-un qui voulait développer à la fois le nucléaire, véritable assurance vive face aux États-Unis et l'économie.
À quoi ça sert ces différents tirs de missiles? Ça sert à dire quoi? Quel est le message?
Ça sert à dire nous existons. Ne nous menacez pas. Et paradoxalement, il faut se demander pourquoi ce tir de missile qui intervient après un autre qui était dirigé très clairement aux États-Unis puisqu'il avait été fait le jour de la fête américaine.
Le 4 juillet.
Cette fois-ci, c'est très symbolique. Il se trouve que ça a été retardé d'une journée, mais c'est quand même le 27 juillet, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais c'est le jour marquant la fin de la guerre de Corée. Il faut se demander ce que veut la Corée du Nord. L'arme nucléaire, qui est inscrite dans la Constitution depuis 2012, l'arme nucléaire et maintenant le fait d'avoir enfin les États-Unis à portée de missiles balistiques, puisqu'ils pourraient presque même atteindre Chicago, ai-je lu, cette arme nucléaire est une véritable assurance vie qui lui garantit, un peu comme David et Goliath, un dialogue, la possibilité de ne pas être anéanti par les États-Unis.
Juliette Morillo est l'auteur de La Corée du Nord en 100 questions aux éditions Taillandier. Elle répondait aux questions d'Olivia Ferrandi sur France Info. Journée cruciale demain au Venezuela. Le pays est appelé à élire une assemblée constituante qui sera habilitée à dissoudre toutes les autres institutions de l'État et à réécrire la loi fondamentale du pays. Le discours officiel du président Maduro, c'est que c'est la meilleure façon d'apaiser la crise qui secoue le pays depuis des mois. Mais l'opposition affirme que le chef de l'État essaye par ce biais de poursuivre sa dérive dictatoriale. On sait que 113 personnes ont perdu la vie ces derniers mois dans des manifestations anti-gouvernementales au Venezuela. Air France a d'ailleurs décidé de suspendre ses vols entre Paris et Caracas à partir de demain. Et pour 3 jours, il s'agit d'une question de sécurité. Écoutons le témoignage de Victor. Il est originaire de Lyon et il est coincé au Venezuela pour un mariage. Il ne sait pas quand il va pouvoir rentrer.
On est tous en train de se débrouiller, chacun de son côté. Par rapport à nos différents vols réservés, certains trouvent des solutions rapidement, d'autres ont plus de difficultés. Voilà, j'ai entendu dire qu'il y en a qui resteraient sur place pendant 2-3 jours de plus. Il y a d'autres encore, on a dit vous ne pourrez rentrer que le 13 août. Donc bon, nous, si vous voulez, on est dans la bulle de l'hôtel, inséré dans la bulle de l'île qui est à 1 heure de vol de Caracas. Donc pour l'instant, on n'est pas en train de vraiment avoir enfin, on n'a pas peur, on n'est pas inquiet pour quoi que ce soit. Mais c'est vrai que lorsqu'on va rentrer à Caracas, en fait, on sait même pas ce qui va se passer parce que demain, les habitants, en fait, sont appelés à se masser dans les rues pour dire non, en fait, à l'Assemblée constituante. Et en fait, à partir de là, on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Et je crois que c'est pour ça, en fait, que les compagnies aériennes ont annulé leur vol. Voilà, on attend de voir. Mais bon, je préfère pas faire de prévisions un petit peu hasardeuses en avance.
Propos recueillis par nos confrères de France Info. Au Pakistan, qui va donc succéder à Nawaz Sharif, Premier ministre sortant? On rappelle qu'il a été destitué hier par la Cour suprême suite à la révélation d'un scandale financier. Alors Nawaz Sharif a fait connaître son choix de successeur. Il s'agit de son frère qui s'appelle Shahbaz Sharif. Mais il va prendre le temps de se présenter aux élections. Donc en attendant, c'est l'ex-ministre du pétrole Shahid Abbasi qui a été désigné pour l'intérim. En France, la tension monte d'un cran aujourd'hui dans les relations déjà très crispées entre TF1 et SFR. Le groupe audiovisuel de Bouygues demande à l'opérateur Télécom de ne plus distribuer ses chaînes de télévision gratuites sur ses box. Alors le bras de fer dure déjà depuis quelques temps entre les deux parties. Elles ont essayé de se mettre d'accord sur des modalités financières de distribution, mais ça n'a donc pas été possible. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Ilan.
Alors qu'est-ce qui explique cette coupure soudaine de la part de TF1?
Cette coupure fait partie de la stratégie du groupe TF1 pour revaloriser ses revenus. Depuis quelques années, le groupe voit ses recettes publicitaires à la télévision décliner à cause de la concurrence d'Internet. Du coup, pour compenser, la filiale de Bouygues a demandé aux fournisseurs d'accès à Internet de renégocier les contrats pour pouvoir profiter des retombées économiques engendrées par la télévision sur Internet. Pour la petite histoire, il faut savoir que les chaînes de télévision du groupe, c'est-à-dire TF1, TMC, NT1, HDI et LCI, sont diffusées gratuitement sur les box. La seule chose qui rapporte de l'argent, c'est le service de replay ou télévision de rattrapage, MyTF1, qui lui est facturé 10 millions d'euros par an. Ce que veut faire TF1, c'est faire payer aux opérateurs le droit de diffuser les chaînes du groupe, sauf que pour ça, ils réclament environ 100 millions d'euros par an, soit 10 fois plus pour un service identique. Pour se justifier, la filiale télévisée de Bouygues met en avant le milliard d'euros qu'elle investit chaque année dans ses infrastructures pour diffuser les chaînes, mais aussi le manque à gagner qu'elle subit, puisque les opérateurs, qui profitent du service de télévision par Internet gratuitement, arrivent, eux, à faire du profit grâce à la publicité. La coupure du replay sur les box SFR ne serait donc que la première étape dans le bras de fer qui oppose les deux entreprises, puisque si un accord n'est pas trouvé rapidement, TF1 pourrait entamer des recours judiciaires nécessaires pour que toutes les chaînes du groupe soient purement et simplement supprimées du bouquet télévisé proposé par SFR.
Merci David Ravier pour ces précisions. Télévision toujours, le CSA met en garde Canal+, suite à la diffusion d'un chant de supporters de football jugé homophobe. La séquence avait été diffusée dans l'émission J+1 sur Canal+, donc il y a quelques mois, le 5 février dernier. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel relève le caractère qui se voulait humoristique de cette séquence visant à dénoncer des travers du monde du football, mais... poursuit le conseil, je cite, « sa diffusion sans aucune distance risquait de blesser des personnes et pouvait, perçue au premier degré, être de nature à nourrir des préjugés homophobes dans le sport ». Fin de citation. L'association Rouge Direct, qui lutte justement contre l'homophobie dans le sport, s'est dite satisfaite par cette mise en garde. C'est d'ailleurs elle qui avait saisi le CSA. Retour maintenant sur une décision prise cette semaine par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle a infligé une amende de 40 000 euros à la société de location de voitures Hertz. Motif, l'entreprise avait laissé accessibles les données personnelles de quelques 35 000 clients. Il faut savoir qu'en effet, aujourd'hui, les entreprises qui ne sécurisent pas suffisamment ces données personnelles risquent gros. Les sanctions possibles ont été augmentées par la loi numérique qui avait été votée en octobre dernier. Et la CNIL a donc voulu envoyer un message très clair. Les précisions d'Abdellah Khalidrissi.
Les entreprises sont responsables de la sécurisation des données personnelles de leurs clients. Elles ne peuvent plus, par exemple, se réfugier derrière la responsabilité d'un sous-traitant, comme dans le cas de Hertz. Suite à l'erreur technique d'un prestataire, les noms, prénoms, adresses, date de naissance et numéro de permis de 35 000 clients étaient facilement accessibles à n'importe quel internaute. Une fois l'erreur signalée, Hertz a immédiatement réglé le problème et diligenté un audit sur l'incident. Mais cette bonne foi n'est pas suffisante. Dans sa décision, la CNIL explique que l'entreprise n'a pas pris toutes les précautions utiles. Par exemple, elle n'imposait aucun cahier des charges à son sous-traitant informatique et elle ne s'est pas assurée de l'absence de vulnérabilité suite à un changement de serveur, d'où l'amende de 40 000 euros et surtout la publication de la décision dans un contexte, je cite, « dans lequel se multiplient les incidents de sécurité ». La CNIL constate de plus en plus de cas d'entreprises qui prennent à la légère la sécurisation des données personnelles des clients. La loi numérique votée l'an passé permet désormais à la CNIL d'infliger une amende en cas de manquement sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable. Cette amende peut monter jusqu'à 3 millions d'euros contre 150 000 euros auparavant. L'an prochain, elle pourra même grimper jusqu'à 20 millions d'euros. Un arsenal dissuasif très utile lorsque la CNIL doit faire face aux manquements de multinationales comme Google ou Facebook.
Demain, le ciel est mitigé. On attend des orages sur la moitié est du pays. Pour ce qui est de la matinée, il faut s'attendre à des averses, notamment du côté de la Bourgogne et de l'Auvergne. Ce sera plus ensoleillé sur la moitié ouest. Côté température, pour demain matin toujours, ça part de 16 dans le Finistère et ça monte jusqu'à 29 dans le Var. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Il a été réalisé à la technique par Pascal Baudin.